qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes.
Come on, guy, who be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Pour certains, c'est là que tout commence. Un premier film comme une promesse, exposé aux yeux du monde, et qui révélera plus tard un talent et parfois même un nouveau territoire de cinéma. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Bertolucci, Schroeder, Loach, Audiard, Wong Kar-wai, Carax, Iñárritu, Ozon, Noé et tant d'autres, tous révélés par la semaine de la critique à Cannes qui fête cette année ses 60 ans. Bonjour Charles Tesson.
Bonjour.
Délégué général de cette semaine, chercheur d'or depuis 10 ans, c'est votre dernier mandat et l'occasion d'explorer avec vous cette mine de talent dans cette section qui permet à la critique française de défendre la jeune création. Certains se retrouvent plus tard dans le grand bain et même pour 6 d'entre eux dans la compétition cannoise 2021 annoncée jeudi. Une compétition et une sélection très enthousiasmante que nous commenterons. Lui a été sacré en 97 à Cannes, Palme d'Or pour le goût de la cerise. Abbas Kiarostami, une grande expo à Beaubourg, est consacré au cinéaste iranien disparu en 2016. Nous y avons fait un tour. Enfin, les sorties ciné, nombreuses, de Billie Holiday à Céline Sciamma. Les affaires reprennent, c'est parti.
Tout à l'heure, ce matin, elle a même pas voulu me parler, tu te rends compte ? Mais qu'est-ce que je fais là ? J'y retourne ou j'y retourne pas ?
Mais attends, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. La dernière fois que vous êtes vus, c'était quand ?
C'était hier, c'était au café près de la gare.
Non mais viens avec moi, tu me montres ça.
Tu peux pas t'occuper de lui une soirée ? C'est trop pour toi de t'occuper de lui une soirée ?
Ma vie est très compliquée, j'ai de la place pour personne.
Bonjour Louis Garrel.
Bonjour.
2015, bonjour. Ce premier long métrage, Les deux amis avec Vincent Macken, Goldshifteh, Farahani et vous-même, Louis. Et ce cadeau d'être retenu à la semaine de la critique, c'est quand même une rampe de lancement formidable, non?
Ah ouais, c'était génial. C'était génial parce que, surtout, comme la semaine de la critique, c'est que pour les premiers seconds films, oui. C'est comme, ils ont les metteurs en scène les plus tremblants devant eux, parce que quand on a fait un premier film, on sait pas du tout ce que ça vaut, on n'en sait rien, on est en train de se dire, mais si ça se trouve, on sait pas parler le cinéma, quoi, on est complètement emmêlé. Et donc, quand on le montre à la semaine de la critique et qu'ils nous prennent, tout d'un coup, je sais pas, on est délivré d'une honte. on est délivré d'une honte qu'on a éprouvée pendant tout le montage et toutes les premières projections. Donc, c'était carrément un chef-d'œuvre. Mais il faut que vous sachiez un truc.
Oui.
Il faut que vous sachiez un truc. C'est que quand vous allez à la semaine de la critique, le problème, c'est que c'est que pour les premiers et les seconds films. Donc, tous les gens qui vont à la sélection officielle en compétition, c'est parce qu'ils peuvent plus aller à la semaine de la critique. Donc ils sont obligés d'aller le présenter aux autres, quoi. Si. Parce que à la fois, je sais pas, c'est un esprit très particulier. D'ailleurs, tout d'un coup, quand j'écoutais votre émission, il y a un film de Bertolucci qui s'appelle Prima della Rivoluzione,
oui.
Qui est tellement génial, qui est son deuxième vrai film, parce que le premier, enfin, c'était son premier film, il y en a un qui s'appelle La Comare Seca, ouais. Qui était un scénario de Pasolini. Et Prima, je crois qu'il était la semaine. Ouais. Charles, est-ce que je dis une bêtise?
Oui, 64, c'est ça.
Il a appuyé sur le buzzer.
On est tous en train, comme des idiots, de s'identifier à des maîtres qu'on adore et tout ça. Et donc, moi, quand j'étais la semaine de la critique, j'ai fait un peu comme Bernardo. Bon. Mais un peu.
Oui, un peu.
C'est aussi s'exposer au monde, Louis Garrel, s'exposer à la critique étrangère, aux regards étrangers, c'est super important.
Ouais, tout important. Enfin, c'est-à-dire que c'est le moment où les critiques étrangères, c'est encore un truc parce qu'on n'y pense pas. Quand on a la semaine de la critique, quand on a fait un premier film, on pense juste des gens vont venir regarder le film et on ne sait pas du tout ce qui va se passer.
Ouais.
On n'est pas encore en train de se dire là. Plus tard, après, on pensera putain, c'est complètement fou. En fait, j'ai montré le film devant des Japonais, des Chinois, des Australiens.
Mais oui.
Un truc très très rare dans la vie d'avoir une salle où il y a des gens de nationalités différentes. Parce que, bon, voilà.
Charles, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Charles Tesson.
À part que j'adore Charles. Là, je peux vous dire qu'il est un sélectionneur de génie. Et qu'il est un super fort spectateur. Très, très, fin comme ça. Et à la fois, il est enfantin comme les spectateurs qu'on aime vraiment. C'est-à-dire pas ceux qui analysent tout. Et en même temps, très profond parce qu'il a une espèce à la fois un grand savoir de cinéma et en même temps un regard complètement enfantin quand il regarde un film. Donc ça, c'est les deux. Ça fait que c'est un grand spectateur.
Merci beaucoup, Louis.
Il rougit.
Ouais, merci.
Vous voyez pas, je suis très touché. C'est sa dernière année. Merci beaucoup, Louis Garrel.
Merci, Louis Garrel.
Salut.
À bientôt. Au plaisir.
Salut. Bon, et attends, c'est parce que c'est l'anniversaire de la semaine de la critique.
Oui.
60e.
Alors, on dit joyeux anniversaire à la semaine de la critique.
Ouais. Merci, Louis. Merci.
Merci.
Salut.
Charles Tesson, quels sont vos critères, en fait, pour accepter un premier ou un deuxième film à la semaine de la critique?
Il n'y a pas de critère a priori, il y a à la fois la rencontre, parce qu'un film c'est une rencontre, et il peut y avoir des émotions, un choc, un émerveillement. Après, comme on voit beaucoup de films, il y a aussi le fait que ce à quoi on est attentif, ce qui est passionnant la semaine, c'est qu'on a un regard sur tout le cinéma mondial et tous les premiers films, et d'essayer de voir en quoi ce film-là, par rapport à tel pays ou tel état de cinéma, trace une nouvelle voie, un nouveau ton. Et puis, je ne demande pas nécessairement un premier film que ce soit un film parfait, mais j'aime bien sentir une personnalité. Quelqu'un qui a envie d'en découdre d'une certaine manière avec le cinéma, et ça se sent dans ce premier film, quand bien même il n'est pas abouti.
On a envie de voir son second film.
Voilà, exactement, c'est ça, exactement.
Ouais. Je ne sais plus où est la place de la critique aujourd'hui, ça c'est Jacques Audiard, qui a commencé avec vous, chez vous, avec Regard les hommes tombés.
Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais plus quelle est la place de la critique dans ce qui serait une cinéphilie. Je ne sais plus aujourd'hui. Moi, je sais que je viens de manière un peu exemplaire de là. J'étais lecteur de critiques avant de réaliser. Il y a des films, j'ai lu les recensions avant de les voir. On a l'impression d'être accueilli dans la cinéphilie, voilà, dans un territoire qu'on aime, qui vous a ouvert un peu les yeux, oui.
Et tu me le rends, mon pognon, tu me le rends, je te casse la gueule, je fais des confettis avec ta petite tête de merde. Allez, viens, dis-moi.
De toute façon, si tu nous rends pas le blé matin, on va te tuer.
Tu me regardes.
On va te tuer. Moi, je te casse la tête. Tu me le rends, mon pognon?
Ça va.
Comment ça, jamais? Tu vas pas me le rendre, mon pognon?
Arrête.
Oh, le mec...
Arrête.
Voilà, c'était Regarde les hommes tombés. Vous dites un truc très chouette, Charles Tesson. Ce sont les ruptures que les films produisent dans l'histoire cinématographique de leur pays. C'est ça, c'est un nouveau regard dans un pays. Grâce à un cinéaste.
Voilà, parce que c'est pour ça qu'il faut à la fois avoir beaucoup de films, être très curieux. Je pense qu'il faut, Louis parlait d'enfantin, c'est-à-dire que les enfants sont curieux de tout, quoi.
Ouais.
Et la curiosité, en tant que critique, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus fort à maintenir, et de pas être lassé. Les gens qui voient tout venir et qui ont le sentiment de tout savoir déjà. Non, il faut être ouvert, il faut savoir accueillir, savoir être étonné. Et c'est important, oui, parce que on voit des films qui sont très beaux, mais on se dit, tiens, il adore Nuri Bilsen, ça le sent. Il adore Kiarostami, très bien, parce que c'est ce que j'aime beaucoup, mais j'attends autre chose d'un premier film, quoi.
Et en 2019, vous accueillez cette jeune femme, qui est une actrice et qui présente pour la première fois son film magnifique, Tu mérites un amour. Bonjour Afsia Herzi.
Bonjour.
On peut dire, Afsia, que vous êtes née réalisatrice là-bas à la Semaine de la Critique.
Oui, complètement. Et c'est grâce à la Semaine de la Critique. Hein, je disais d'ailleurs bonjour Charles.
Bonjour Afsia.
Bonjour.
Oui, très bien.
Je disais à Charles il n'y a pas longtemps que c'était grâce à la Semaine de la Critique, à Charles et à toute son équipe, que j'ai pu faire mon second long métrage. Et j'oublierai jamais, ça a été un tremplin exceptionnel et une chance pour le film, mais j'oublierai jamais, jusqu'à toute ma vie, jusqu'à mon dernier sou.
Et cette projection, elle s'était passée comment? Vous vous en souvenez, Afsia? Tu mérites un amour?
Ah oui, c'était magnifique, c'était formidable, surtout que j'avais jamais vu le film sur grand écran, parce que quand on a eu la réponse pour Cannes, il fallait vite tout boucler, etc., donc j'ai pas eu le temps. Et c'était beaucoup d'émotions de le voir sur grand écran, de le voir en public, et d'entendre des réactions en direct, et de se dire, ouais, ça y est, c'est vrai, quoi. Il existe. Donc, c'est magnifique.
Non, mais c'est une magnifique histoire avec ton film, Afsia, parce que tu m'as envoyé un mail un jour pour dire « J'ai fait un film, est-ce que vous voulez le voir ?» Et je ne savais pas qu'il existait. Personne ne savait qu'il existait, parce que tu devais faire Bonne Mère, qui avait été interrompue, et tu as fait, c'est ce que j'ai appris après, ton film avec l'équipe, là, et tout d'un coup, maintenant, tu fais Bonne Mère, qui se retrouve à certains regards. Donc, c'est une histoire magnifique.
Ah oui.
Oui, c'est incroyable.
Ouais.
Et franchement, ça m'a apporté énormément. Tu mérites un amour. Et je me dis que de toute façon, que c'est le destin. Il fallait pas que je fasse Bonne Mère à ce moment-là.
Qui est très beau, c'est très beau, Bonne Mère. Enfin, il sera à certains regards, je ne vais pas en parler, mais il est magnifique. Ouais.
Merci beaucoup. Donc voilà, grâce à la semaine de la critique, ça, franchement, ça a changé ma vie, honnêtement. Bah, ça m'a permis aussi d'après de vendre le film. Il s'est vendu à l'international, il a donné une visibilité incroyable. Il a été vu par beaucoup de monde. Il a eu des prix un peu dans le monde entier. Donc, franchement, merci à vie. La semaine de la critique.
Afsia.
Vraiment, quoi, ils ont pris le temps de le regarder. Ouais.
Non, mais ce qui est beau chez Afsia, c'est que, enfin, chez toi, Afsia, c'est que tu es une comédienne, donc tu es habituée à être vue, à t'exposer. Et ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as un vrai regard sur les autres, que tu filmes, y compris dans Bonne Mère. Mm. Et ce regard que tu as sur les autres est vraiment très très beau. Et c'est ça le vrai sens de ta mise en scène. Il y a des cinéastes qui font des films comme sorte de démonstration de savoir-faire, de l'outil cinéma. Toi, tu as une très grande simplicité, mais tu as un regard sur les autres qui est magnifique.
Bon, Afsia, vous allez passer une bonne journée avec ça, hein, vraiment. Et Afsia, c'est amplement mérité tout cela, tout ce qui vous arrive. On vous embrasse.
Moi aussi,
on vous retrouve à Cannes.
À Cannes.
Au revoir.
Et joyeux anniversaire la semaine
merci,
prochaine.
Merci.
Ah, bah voilà. Alors, pour
on
faire
un, les bougies.
Ouais. Quelques petits morceaux d'extraits de films qui sont passés à la semaine. C'est notre petit mix. Tu mérites un amour. C'est arrivé près de chez vous. J'ai perdu mon corps. Petit paysan. Grave.
Ça, c'est pas l'amour. Okay. C'est malade ou quoi?
Ouais, j'aimerais bien savoir ce que
l'amour,
c'est.
L'amour, c'est pas de se faire tromper, c'est pas d'être avec un menteur, un tricheur.
Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi tu l'as pas dit?
Une raclure comme lui, là, tu fais du mal pour rien, on dirait t'aimes bien. Lâche-la faire.
L'amour, elle laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne, et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts.
Est-ce que tu crois au destin?
Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire.
Ouais.
Et qu'on pourrait rien changer.
À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel.
Un truc comme quoi?
Un truc improvisé. Que tu devrais pas faire. Que t'aurais pas dû faire, mais que t'as bien fait de faire, parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas.
Qu'est-ce que t'as fait exactement? Elle est où, cette vache?
La vache, hein, c'est pas celle qui était dans la salle de traite.
T'as été fouillée?
T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu, on peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant?
J'ai sauvé les 25 autres. Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre.
Et s'il y en a une autre?
Il y en aura pas d'autre.
S'il y en a une autre? Je suis pas malade, t'inquiète.
Non mais tu vas le devenir si tu continues. Je sais ce que ça fait. Tu vas pas tenir comme ça.
Ouais, bah moi, c'est pas pareil. Toi, tu fais ton truc, moi, j'ai pas besoin, c'est tout.
T'as pas besoin?
Non. Je fais ça pour essayer.
Si c'était juste pour essayer, t'aurais pas pu choisir autre chose que mon doigt. Y a rien d'autre qui t'intéressait sur le menu. J'espère qu'il était bon, moi.
T'as un goût de curry.
Charles Tesson, ça c'était avant, mais maintenant, alors en 2021, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on peut révéler des choses ou pas par rapport à cette sélection de sept films?
Je peux vous révéler des choses et une chose.
Alors allons-y.
Allons-y. Des choses, c'est que la sélection sera annoncée lundi, oui, ça c'est pas une surprise.
Non.
Et avec, on a maintenu pour cette 60e édition, je dirais, la règle d'or de la semaine, une semaine, 7 jours, la compétition, 7 films, un premier film français. Par contre, on a. Pour cette 60e édition, on a eu l'idée toute simple et presque logique de dire qu'il faut un film pour célébrer la 60e édition. Donc il y a le film de la 60e, et comme on est là aujourd'hui dans cette belle émission, on ne vient pas chez vous quand même les mains vides.
Non. Hein.
Donc je vous ai apporté ça. C'est le film de la 60e, donc je vais vous le dévoiler maintenant. Alors je vais faire un peu quiz, hein. C'était bien un court-métrage qui était la semaine, parce que c'est une réalisatrice qui a été révélée chez nous. Donc le court-métrage s'appelait « Pauline asservie » avec Anaïs. Elle a ensuite écrit et préparé son premier long métrage dans le cadre de l'atelier Next Step, qui a été développé par la Semaine de la Critique. Et son premier film, on l'a adoré. Ça s'appelle Les Amours d'Anaïs, de Charline Bourgeois-Taquet, avec Anaïs de Moustier, Bruno Podalides et Valeria Bruni-Tedeschi.
Bon, super!
Et le film, je ne vais pas vous en parler, vous en saurez plus dans la vidéo de lundi, mais je peux vous dire juste une petite chose, c'est sur le titre, parce que ça s'appelle Les Amours d'Anaïs. Donc Anaïs, c'est une personne singulière, mais qui aime le pluriel. Les amours. Mmh. Elle est étudiante en doctorat en littérature, donc elle aime les lettres. Donc elle a le sens des accords grammaticaux, le pluriel et le singulier. Puis elle recherche l'accord parfait, c'est l'amour. Voilà. Bravo.
On va rejoindre maintenant un troisième réalisateur qui a présenté son premier film Petit Paysan en 2017 et qui obtiendra derrière d'ailleurs le César du premier film. Ça c'est très beau. Bonjour Hubert Charvel.
Bonjour.
Pierre, jeune éleveur de vaches laitières face à une épidémie. Premier passage donc à la semaine de la critique. Première projection publique, c'était comment Hubert?
Ah bah c'était très stressant. C'était très stressant. Et voilà, on a survécu et plutôt bien.
Donc, oui.
Donc voilà. Mais non, évidemment, c'était la première. Bah, c'est comme le jeu de Cannes, quoi. Mais c'est la première présentation en public. Donc nous, ça fait je sais pas combien de temps qu'on bosse sur un projet comme ça. On ne sait pas du tout comment on va être reçu. Donc forcément, c'était très stressant.
Donc ça a entamé vraiment. C'est un acte de naissance, je disais, avec ce film à la semaine et à Cannes.
C'était quoi, pardon?
Un acte de naissance, vraiment, de cinéaste.
Ah oui.
et exposé.
C'est un baptême, c'est une façon d'entrer dans la carrière et chez les grands un peu. C'est comme ça que vous l'avez vécu?
Non, enfin.
Non, mais vous avez bien le droit.
Non, je l'ai très mal vécu.
Non, mais évidemment, c'est. Enfin, voilà, mais en fait, c'est-à-dire que la présentation à Cannes, c'est un. Enfin, je veux dire, on rêve un peu tous de ça, je crois, quoi. Après, le côté genre, c'est l'arrivée chez les grands et tout ça. Bon, moi, je verrais ça de manière très prétentieuse de le dire comme ça. Donc, c'est comme ça. Mais du coup, évidemment, que c'était très très impressionnant. Et voilà, et surtout, ce qui a été. Je pouvais pas m'imaginer que quelque chose comme ça allait m'arriver un jour. Donc du coup, évidemment que dans le côté, je crois qu'il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui aimeraient se dire, bon bah voilà, un jour j'aimerais avoir mon film à Cannes. Bon bah voilà, en effet, là, c'était le cas avec la semaine de la critique. Donc du coup, c'était très très impressionnant et j'en suis toujours très heureux.
Oui, pour plus, Hubert, avec Petit Paysan, t'as quand même lancé toute la vague du film rural dans le cinéma français, quand même. Tu sais ça. Hein
bon,
non, mais ce que j'adore dans ton film, enfin, je l'ai dit, c'est le côté Hitchcock agricole, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que chez Hitchcock, c'est dur de se débarrasser d'un cadavre, mais là, se débarrasser d'un cadavre d'une vache, c'est encore plus compliqué, quoi.
Oui, ben, exactement. Oui, c'est un peu le pari avec la co-scénariste de Le Pape, c'est un peu de se dire, ok, déjà, se débarrasser d'un corps d'humain, je pense que ça, c'est compliqué, mais quand le corps fait 600-700 kilos, c'est encore plus compliqué. Voilà.
Ça s'appelle Petit Paysan et c'est un très beau premier film. Merci beaucoup Hubert Charvel, on attend la suite, bien sûr.
Ok, très bien.
Au revoir.
À bientôt, merci.
Bon, Cannes 2021, Charles Tesson, il y a aussi une compétition officielle, bien sûr. C'est une édition qui s'annonce riche pour un festival inhabituellement, mais fermement en juillet, a bien dit Thierry Frémaux. Donc, un an et demi de films. Annette de Carax en ouverture, l'un des 7 Français en compétition. Laurent Audiard, oui, Ozon, Dumont, Corsini, Mia Hansen-Love. Et puis, beaucoup de découvertes et de surprises.
Dans les 64 films qu'on nous promet, plus quelques autres sur l'environnement, c'est pas tout à fait fini, donc on va nous en rajouter. Mais c'est une fête, quoi. La fête est là. Thierry Frémaux l'a dit, le cinéma est de retour. Le cinéma est de retour dans les salles, le cinéma est de retour à Cannes, on a envie de grand écran, et là effectivement la sélection nous donne à manger amplement parce que ça vient de partout, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, du Nord beaucoup, enfin voilà, bien sûr de l'Asie, donc des cinéastes nouveaux qu'on ne connaît pas, des premiers films, et comme disait Charles, c'est toujours un bonheur de voir quelqu'un qui émerge, et puis les confirmations, on a très envie évidemment de retrouver Nanni Moretti ou Léonce Carax, bien sûr, et Wes Anderson qui a tourné en France, enfin, voilà, avec des propositions de cinéma manifestement très stimulantes, très intéressantes, je pense que ça sera 15 jours de folie cinéphilique et cinématographique, quoi.
On est très curieux, par exemple, du prochain film de Kirill Serebrennikov qui nous avait enchanté avec l'étau de Faraday, la surprise de Sean Penn, comme ça, avec Flag Day. Donc, Ozon, Joachim Trier, Joachim Lafosse, Nabil Ayouch, Wes Anderson, Iner Salem, Catherine Corsini. Non, mais c'est ouais. En fait, vous avez eu un an et demi de films en attente, donc.
C'est un festival. C'est ce que je me disais, c'est la première fois qu'on voit autant de films avec des génériques de fin. parce que on sent que les gens les ont tournés et ont pris le temps de les finir.
Oui,
et
je pense
que
Thierry
Frémaux l'a dit d'ailleurs dans sa conférence, il disait qu'il trouvait que les films étaient, que nous on voit des films, on se dit tiens, il manque une couche de montage parfois, il manque, il y a peut-être 10 minutes de trop et tout. Et là, on sent que les films ont eu le temps de, parce qu'ils étaient tournés soit avant, ils se sont dit l'an dernier c'était trop compliqué, donc ils ont pris le temps de terminer. Et c'est vrai qu'on les a vus dans une, je dirais, dans un état parfait. C'est la première fois que je vois autant de génériques de fin pour la semaine.
Donc c'est les 60e anniversaire de la semaine de la critique, c'est votre 10e et votre dernière, Charles Tesson. Mm-hmm. Mais vous êtes aussi historien de cinéma et vous le connaissez, lui, c'est un cinéaste, un photographe, un graphiste, un poète, l'Iranien Abbas Kiarostami est célébré au Centre Pompidou dans une magnifique exposition très, très sur 1000 mètres carrés avec des portes sans clé, des fenêtres comme un prolongement du regard, des installations vidéo passionnantes pour raconter ce cinéaste iranien avec cette place toujours laissée au regard du spectateur, des films qui jouent sans cesse sur la notion de vérité et de mensonge, qui plongent ces personnages dans des pièges pour tester leur endurance. Kiarostami et cette capacité d'émerveillement qu'il a eue jusqu'au bout, une œuvre menée avec courage sous la censure islamique et jusqu'à l'épuisement. En France, nous l'avons découvert, Kiarostami, en 90, avec un film qu'il avait fait en 87, où à la maison de mon ami suivront ce chef-d'œuvre close-up et la vie continue au travers des oliviers, le goût de la cerise, donc Palme d'or. Et à partir des années 2000, une période plus expérimentale, et notamment ce film Chirine, qui fait l'objet d'une passionnante installation à Beaubourg, commenté par Massoumet Laïdji, commissaire de cette exposition, nous y étions.
Il pose quelques chaises dans son sous-sol et il demande à toutes les actrices du cinéma iranien, actives ou retirées, les stars dont la carrière s'est brisée avec la révolution, des jeunes recrues qui travaillent essentiellement pour la télévision, des actrices qui sont en passe de devenir des stars internationales. Toutes ces femmes-là, donc 112 femmes, se succèdent sur ces quelques chaises qu'il a posées dans son sous-sol.
Toutes voilées.
Toutes voilées. Et ces femmes-là, elles savent qu'elles doivent aller chez Kiarostami pour faire quelque chose, elles ne savent pas quoi. Et Kiarostami se plante devant eux dans ce sous-sol avec une caméra et une feuille A4 accrochée sous la caméra, en disant, vous allez regarder cette feuille et vous allez y projeter le film de votre vie, les films que vous avez faits, vos amours, vos souffrances, vos joies. Vous riez, vous pleurez, vous faites ce que vous voulez. Pendant 6 minutes, c'est à vous. Et donc, cette centaine de femmes s'est succédée et a regardé cette feuille blanche en y projetant sa propre intériorité. Après, Kiarostami a fait une bande-son et il a fait de ce film son film dont lui-même disait que c'était son film préféré, puisqu'il n'y était pour rien, lui n'avait rien fait dans ce film. C'est simplement ces femmes qui ouvrent leur intimité, qui ouvrent leur intériorité face à un écran qu'elles imaginent. Et ces femmes que nous voyons ici, qu'est-ce qu'elles regardent? Elles regardent un autre film que Kiarostami a tourné à peine quelques années plus tard, en 2011, pour une exposition, on lui a commandé un film sur la chevelure féminine. Et sur une plage des Pouilles en Italie, il a mis une annonce de casting en disant qu'il recherchait une petite fille pour un film. Et donc débarquent toutes ces petites filles de 4-5 ans avec des chevelures magnifiques et elles s'assoient face à la caméra d'Abbas Kiarostami. On dit à ses enfants, voilà, est-ce que tu as envie d'être actrice? Évidemment, elles ont toutes des étoiles dans les yeux en disant, oui, on veut devenir actrice. On lui dit, alors on va vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de toi qui as cette belle chevelure et tu as une amie qui est très jalouse de tes cheveux. Donc la nuit, pendant que tu dors, elle vient couper tes cheveux. Ras, tout court. Et les gamines disent toutes, mais c'est pour de faux, c'est du cinéma. Disent, ah non, là, on coupe vraiment tes cheveux, mais c'est pas grave, ça va repousser. Et vous voyez toutes ces enfants qui disent non. Et le film s'appelle No.
Tu vas italier tes capelli?
Non.
Tu italiens mes capelli?
Non.
Non? Non, tu piace italier tes capelli?
Non, je veux bien faire du cinéma, mais à condition qu'on ne touche pas à mes cheveux.
Mais déjà, la proposition, demander à un cinéaste iranien comme Kiarostami de faire une expo sur les cheveux, c'est déjà une proposition politique.
C'est une proposition politique, c'est la proposition d'un grand connaisseur de Kiarostami qui était Alain Bergala, qui connaissait la malice de cet homme-là, l'inventivité de cet homme-là, et qui se demandait à juste titre comment est-ce qu'il allait contourner cette idée. Et donc, cette petite gamine avec sa bouille qui refuse, même pour faire du cinéma, de laisser qu'on touche à ses cheveux, est regardée par 30 de ces femmes, les femmes de Shirin, qui, elles, n'ont eu d'autre choix que de se voiler et d'épouser les règles du cinéma, le cinéma tel qu'il était défini pour elles dans le cinéma iranien. Et donc, c'est ce dialogue que l'on observe ici entre la féminité en devenir et la féminité telle qu'elle doit se conditionner dans certaines circonstances, et ce rêve de cinéma, ce désir de cinéma entre toutes ces femmes filmées par Kiarostami. Pour Kiarostami, il n'y avait aucune honte, aucun tabou dans l'artifice, dans le fait de mentir, dans le fait de faire feu de tout bois et de tricher sur tout pour donner accès à une vérité. La vérité qu'il perçoit dans Shirin, dans l'intimité de ces femmes, il l'a obtenue en étant dans le summum de l'artifice, puisqu'elle ne regarde rien, elle regarde une feuille blanche. Donc il pousse l'artifice jusqu'au bout en l'assumant, parce qu'il sait que grâce à cet artifice, il atteint une vérité qui pour lui est le centre même de sa recherche artistique. Pour moi, il incarne l'âme de l'Iran, pas seulement pour moi, pour, je crois, beaucoup d'Iraniens, et donc pour moi, il m'a permis de renouer avec cet Iran-là, et c'est ce qui reste. C'est ce que j'aimerais transmettre aujourd'hui aussi aux gens qui viendront visiter cette exposition. Kiarostami manque beaucoup, il me manque à moi en tant qu'interprète, puisque interpréter sa voix et sa parole est quelque chose de comparable à rien d'autre. Il manque aux Iraniens, il a laissé un vide immense, mais je crois qu'il manque aussi beaucoup à cette époque de déréliction totale que nous vivons, à cette époque où le cinéma cherche son souffle sur les plateformes et dans un cinéma extrêmement formaté. Et je crois que si des nouvelles générations viennent voir à quel point le geste d'un cinéaste peut être un geste radical, à quel point il peut être libre de toutes sortes de contraintes pour continuer de créer, ça peut être une immense source d'inspiration.
Massoumé Laïdji, grande interprète tout court, et de Kiarostami qui a été sa collaboratrice. Vous êtes d'accord, Charles Tesson, Kiarostami, grand expérimentateur, donc modèle, comme elle le disait, pour les jeunes générations.
C'est un immense cinéaste. C'est dans ma vie de critique au Caire, en tant que rédacteur en chef, je crois qu'il y a deux cinéastes qui m'ont le plus nourri, à la fois pour écrire sur les films, c'est Olivera et c'est Abbas Kiarostami. J'ai eu le plaisir d'écrire sur Close Up. Je l'ai rencontré aussi à Téhéran. Et ça, c'est des beaux souvenirs, parce qu'il m'avait invité à une expo photo qu'il avait faite. Et ça, on parlait de Malice tout à l'heure, et après, il m'a ramené en voiture, et c'est lui qui conduisait son 4x4. Puis, à un moment de temps, il s'arrête à un carrefour, il baisse la vitre, puis il demande la route. Et je me dis, est-ce qu'il est vraiment paumé, parce qu'il connaît pas le chemin, ou est-ce qu'il veut me faire croire qu'on est dans un de ses films? Il était comme ça, un peu.
C'est tout le temps, tout s'est entre la vérité et le mensonge. Oui, oui. Le summum, ça serait Close Up, non?
Close Up, et puis surtout de Close Up, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est à la fois un film magnifique, mais c'est aussi un grand film politique. C'est-à-dire que, je me souviens de cette phrase du début, qui est une phrase magnifique et immense. Le type qui va être jugé un prisonnier, dit « Je veux bien qu'on me filme, à condition que vous filmiez ma souffrance. » C'est quand même pas rien comme défi. Oui. Et puis surtout, il filme un procès de Mollah pour montrer que cette justice iranienne est clémente. Donc, ils sont d'accord avec ce deal-là. Puis en même temps, ils montrent qu'il y a une grande misère sociale. On est dans la révolution iranienne, il y a les riches et les pauvres. Et puis celui qui est frustré, lui, c'est un désir de cinéma, représente cette classe pauvre qui n'est pas cette classe aisée, avec le pouvoir du cinéma. Donc il montre à la fois la clémence des mollahs, la justice iranienne, donc on l'autorise de filmer ça, puis il montre la différence de classe qui fait que, après le Shah d'Iran et la révolution islamique, ça n'a pas changé tant que ça. Donc ça, c'est la force politique et l'intelligence politique de Kiarostami est immense.
Simplicité apparente, grande profondeur. Laurent, il y a une installation qui est assez extraordinaire à Beaubourg, c'est cas numéro 1 et cas numéro 2.
Ah oui, alors c'est... Oui, il montre ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que ça part effectivement d'un cas d'école. Hein. Ouais. À tout point de vue, ça se passe dans une école, il y a une dénonciation d'élèves. Cas numéro 1, tout le monde se dénonce. Cas numéro 2, personne ne se dénonce. Et qu'est-ce que ça donne? Et on le montre, Kiarostami montre ça à des dignitaires iraniens en leur demandant « Vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ?» Et ça donne des moments de vérité incroyable. Voilà, cette façon de traiter effectivement le réel en y ajoutant, enfin en y injectant de la fiction forcément, parce que c'est voilà, on se dit c'est smoking no smoking quoi, c'est, ouais. C'est un peu cette réflexion là. Donc c'est tout à fait singulier, tout à fait étonnant. Ouais, vraiment c'est une des belles installations de cette expo qui vaut vraiment le coup hein, d'aller le voir. On le dit.
Plus une rétrospective des films.
Alors, oui, une intégrale des films au Centre Pompidou, des films en salle par ailleurs si on n'habite pas Paris et on peut aller voir les films de Kiarostami en salle. Il y en a beaucoup en ce moment. Potemkin, le DVD Blu-ray fait beaucoup d'efforts, et notamment avec une intégrale des années dites canon, qui sont les années d'école, parce que Kiarostami a fait beaucoup de films dans une école, et c'est extraordinaire. Il y a plusieurs livres, et en particulier le livre de Agnès de Victor et Jean-Michel Frodon, qui s'appelle Abbas Kiarostami, l'œuvre ouverte chez Gallimard, qui est un magnifique reflet aussi de l'expo et de l'œuvre de Kiarostami.
L'expo est gratuite. Pour revenir à la semaine de la critique, Charles Tesson, est-ce que c'est de plus en plus difficile de découvrir des talents du monde?
Non. Moi, je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de territoires de cinéma. Mmh. C'est-à-dire que ce qui a changé entre les années 60 et aujourd'hui, c'est les pays de cinéma, il y en a partout.
Ah oui.
Que la circulation se fait plus vite via des ateliers, on est au courant. Mais il y a je pense qu'il y a beaucoup, ce qui me frappe le plus, il y a des pays qui vont arriver bientôt. En Afrique subsaharienne, ça se met en place doucement, il va falloir attendre un peu. Sud-Est asiatique, en Birmanie par exemple, il y a des choses, en Indonésie, en Malaisie. Ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est de voir qu'il y a des courts-métrages, il y a quelque chose qui va se passer et arriver. Et je pense que le cinéma, il y a le rapport au cinéma par rapport aux courts-métrages, par rapport aux festivals, par rapport à la presse, cette manière de faire exister les films, c'est quand même le rôle des festivals, de la critique, et du cinéma, et c'est de manière artisanale de là. C'est là où il y a un vrai renouvellement dans l'artisanat. Et c'est capital ce travail-là, parce que les autres, les plateformes ne le font
pas. C'est ce que vous dites, voilà. Les plateformes ne vont pas découvrir ces gens-là.
Non, non.
C'est les salles et les festivals qui le font.
Absolument.
Donc, le cinéma n'est pas mort.
Ah, j'en demande pas, jamais.
Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les... Parce que j'imagine que...
Je dirais que c'est la singularité de Cannes. C'est cette concurrence, c'est que chaque section ait sa liberté éditoriale et son identité, mais que l'esprit de compétition nous tire vers le haut, si je puis dire. Je pense que là-dessus, Thierry en est tout à fait, Frémaux est tout à fait conscient, je dirais, pour prendre une métaphore footballistique, puisque Thierry en emploie souvent, Thierry Frémaux, il a fait d'ailleurs sa présentation avec l'Euro, je dirais que être à Cannes avec la semaine de la critique, c'est jouer dans un club contre un autre club du championnat de France, tout en étant dans l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on défend Cannes en tant qu'identité. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir que cette concurrence soit bénéfique au Festival de Cannes dans la qualité des films choisis et renforce Cannes. Donc je pense que là-dessus, Thierry a bien conscience de ça et de cet enjeu-là, qu'on est là pour que Cannes soit non pas le plus fort, le meilleur, mais garde sa singularité, sa diversité à travers ses sections, justement.
Et pour conclure sur la semaine de la critique, il faut rappeler qu'elle sera, montrée cet été.
Absolument.
Oui.
Oui, on fait des reprises. C'est-à-dire que nous, on aime bien, à la fois, on prend peu de films parce que c'est un choix au carré. Mmh. C'est une prise de risque énorme. C'est ça que j'aime beaucoup dans la critique. C'est, on mise sur un film, on mise sur un cinéaste, on y croit, on fait des paris. La critique doit faire des paris. Mmh. Elle doit monter en front, elle doit être éclairée en première ligne, elle doit pas se contenter d'être une sorte de voiture balai, etc. Et je trouve que ça, c'est très important de faire ce travail-là.
Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bon anniversaire à la...
Merci à vous. Hein.
Et on se retrouve pour les sorties, parce qu'il y a des films qui sortent en salle encore.
Ben oui, heureusement.
Après Curtis Harding, Hopeful.
I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in the tongue. That's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see roughly, rough forth from a dream. A stream underwater without a hopson to sing. Not the pacifier, but homie, the truly changed. When you stare at the heavens, you see the stars rearrange. So be. Why?
just the music motivated. I'm more melodic melody that moves and mediates. Evolution of change that pulsate the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas, lather. Don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, your crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the dollars will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, all the things that cause casualty to your soul.
Curtis Harding. On va parler des films maintenant qui sont sortis mercredi, Laurent.
Oui.
On va commencer par Mère et fille du réalisateur croate, serbe et bosniaque, Djur Pavlović. Parti faire sa vie en Allemagne, Jasna revient en Croatie, rendre visite à sa mère, Anka. Méfiante et acariâtre, elle tient à garder son autorité et n'accepte la présence de personne. Entre les deux femmes s'engage alors une lutte intime, singulier, émouvant, sans être tire-larme. Et au milieu, une grande actrice, Daria Lorenci.
Alors, c'est un film croate, serbe et bosniaque. Oui. Il y a quelques années, ça n'aurait pas existé, hein, faut bien le dire. Ça aurait été un théâtre d'opération à lui tout seul, mais ça aurait pas été un film. Donc ça, c'est quand même, c'est bien que le cinéma dépasse, transcende tout ça. Et ça donne, alors, un vrai, très très beau premier film qui aurait pu être à la semaine de la critique en son temps, franchement, parce que il y a une radicalité, notamment dans le propos, qui aurait certainement interpellé Charles Tesson, parce que c'est donc le portrait de, vous le disiez, de cette jeune femme, mère de famille, mais aussi donc elle-même fille de d'une mère qui est en train de mourir. Et le film est entièrement centré physiquement sur son visage, c'est-à-dire que régulièrement c'est son visage qui est en gros plan. Ses interlocuteurs peuvent être un peu floutés, peuvent être à demi dans la pénombre, pris sous certains angles. Donc cette radicalité là, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle nous montre d'abord cette femme et dans ce cheminement de l'une vers l'autre, de cette mère mourante vers cette fille qui revient vers elle physiquement parce qu'elle était partie à l'étranger, et elle revient aussi intellectuellement, moralement, affectivement. C'est le moment où jamais. Il y a le temps presse, et en même temps elles prennent le temps de se redécouvrir. C'est magnifique d'intensité, d'affectivité et d'une intelligence justement sensible cinématographiquement à travers ce choix très radical. Je le rappelle, ça s'appelle Mère et fille, et c'est un film, premier film, alors, extrêmement prometteur.
Petite maman de Céline Sciamman, il y a 8 ans, elle vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d'enfance de sa mère, Marion. Un matin, la tristesse pousse sa mère à partir. C'est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s'appelle Marion, c'est sa petite maman. C'est un conte fantastique sur le deuil et la transmission avec une grande idée au centre. Cette rencontre avec sa mère à son âge, s'imaginer jouer avec elle, sans que le film embrasse complètement l'ambition du propos, là.
Oui, en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un retour à l'enfance pour Céline Sciamma, donc un retour à Tomboy, qui a déjà 10 ans, et une très très belle façon, quand même, je pense tout à fait consciente, de dire on fait un film contre le précédent. Alors, c'est peut-être pas tout à fait contre, mais en tous les cas, c'est à côté. On pouvait s'attendre à Pré-Portrait, à quelque chose de bon, comme ça, dans une sorte de grand film. C'est pas le cas. Là, le propos est prétendument plus modeste. Il est modeste à tout point de vue. C'est pas un film en costume. Ça se passe maintenant. Peu de personnages, etc. Mais il y a une telle attention à la mise en scène. Il y a une telle attention à la façon de cerner ce mystère dont vous parliez très très bien, la façon dont tout ça se met en place, avec notamment l'irruption d'une musique magnifique écrite par Parwan et Arthur Simonini, je le dis en passant, parce que vraiment je trouve que c'est une très très belle musique, dans un décor qui a beaucoup plu à Guillaume Braque dans une œuvre précédente, qui est une pyramide, on n'en dira pas plus, mais une pyramide sur l'eau qui est en banlieue parisienne, qui est merveilleux. C'est un moment merveilleux, il y a des vrais moments de cinéma. 1h10, hein, chrono, le film dure 1h10, et je trouve que voilà, la modestie du propos est épatante dans ce film.
Billie Holiday, une affaire d'État du réalisateur américain Lee Daniels, au-delà d'une biographie classique sur l'icône de jazz. C'est presque un film sur un seul morceau, une chanson, Strange Fruits, un réquisitoire contre le racisme qui a déclenché tant de controverses dans l'Amérique des années 40, et comme un film miroir sur l'Amérique d'aujourd'hui, sur le racisme en Amérique. De ce point de vue, le focus sur un volet qui symbolise une femme, un combat, une déchéance, est une idée politique et brillante. Dommage qu'elle soit noyée, surtout dans la deuxième partie, dans de gros effets de mise en scène. Enfin, quand on dit d'une actrice qu'elle crève l'écran, Andrade en a presque inventé la définition. Elle est présente, vivante, belle, laide, cassée, investie. Une réincarnation mais foudroyante de Billie Holiday. Elle a tout majeur de ce film. Et en plus, c'est elle qui chante.
Oui, je partage entièrement. Décidément, Lee Daniels, ça peine un peu à devenir un vrai cinéaste.
Susanna Handler de Benoît Jacquot, années 60, une villa de vacances au bord de la mer, hors saison, une femme. Susanna Handler, c'est Charlotte Gainsbourg. 40 ans, mariée, mère, son jeune amant, le premier Michel, la solitude, les doutes, l'envie de liberté, les choix de la vie et l'amour, d'après la pièce de Marguerite Duras, qui avait demandé à Benoît Jacquot, qui avait été son assistant sur 3 films, de l'adapter au cinéma. 27 ans plus tard, voici le film.
Ah oui, et j'avoue que je suis très très sensible à cette promesse tenue par Benoît Jacquot, parce qu'il dit très malicieusement de la pièce originale, c'est du boulevard racinisé. Il avait dit ça à Duras, et Duras avait dit, qu'est-ce que ça veut dire, boulevard racinisé? Ben, il avait dit, parce qu'en général, le cinéma français, c'est du Racine boulevardisé. Donc là, je prends contre-pied, et effectivement, parce qu'on a quoi? On a le mari, la femme, évidemment l'amant, on a même l'ancienne maîtresse du mari. Bref, les portes pourraient claquer à tout va, ça pourrait faire effectivement du boulevard. Et évidemment, Duras en fait tout autre chose, et Jacquot affiche un respect, notamment à l'égard du texte, y compris les pauses, les souffles entre les mots, il fait entendre la langue durassienne vraiment de façon très très belle, et puis au milieu du film brille, scintille, lumineuse, la petite robe noire étincelante de Charlotte Gainsbourg, qui se range à mon sens aux côtés des grandes diseuses de Duras que sont Moreau, Serig et Riva notamment. Elle est absolument bouleversante du début jusqu'à la fin, et ça donne envie, et il faut lire aussi le texte de Duras du coup, que Folio Gallimard vient de republier avec une belle préface de Benoît Jacquot et des textes de Jean Cléder. C'est pour moi vraiment la découverte d'un très très grand texte de Duras, merveilleusement servi par Benoît Jacquot et Charlotte Gainsbourg.
Pour moi, une incapacité d'entrer dans ce texte, puisque malgré les efforts, une incompréhension devant les tourments qui ajoute cette femme, partant de là une frustration de ne pas éprouver ce qu'elle ressent, comme une mécanique qui tourne à vide, s'enchaîne avec des mots, des mensonges, des secrets, des silences, et finalement un gros spleen, celui peut-être d'être passé à côté d'un texte de Marguerite Duras, en préférant la lire et même l'écouter, mais pas la voir.
Vous irez vous faire votre idée en salle.
Les séminaristes de Ivan Ostrochowski, c'est un deuxième film, il est slovaque, en Tchécoslovaquie au début des années 80, le régime communiste muselle l'église. Laurent, deux jeunes séminaristes devront choisir entre la soumission à la police secrète ou une fidélité à leurs convictions qui pourrait leur coûter leur vie.
Oui, c'est un peu la faucille, le marteau et le goupillon. Hein. C'est des thématiques qu'on a déjà entendues, mais peu importe, parce que il y a formellement, c'est magnifique, hein, très très beau noir et blanc. Il a une façon très à lui de filmer qui est très à la verticale, un peu en contre-plongée comme ça, en verticale. Alors on se dit, c'est peut-être le point de vue de Dieu, vu le sujet du film. Je pense pas que ça soit une surinterprétation. Et de ce point de vue-là, c'est très malin. Seulement, au bout d'un moment, le point de vue de Dieu, il est d'une sécheresse, d'une désincarnation assez désolante d'un certain point de vue. C'est-à-dire, le film se fait très abstrait. La chair n'est pas triste, elle est tout simplement absente. Et c'est un peu dommage pour peut-être justement atteindre la grâce que le sujet, quand même, malgré tout, induisait. Alors, c'est un peu dommage. Voilà, on est très très content des images. Le discours lui-même peine un peu derrière à suivre. C'est dommage.
Playlist de l'auteur de BD, Nine Antico. Sophie a 28 ans, elle aimerait être dessinatrice. Une histoire en noir et blanc, comme les dessins de son héroïne. Sophie, donc, elle aimerait tant publier, mais qui se cogne au milieu de la BD, au snobisme des écoles d'art, aux garçons aussi inconstants, lâches. Sophie, elle, est sincère, comme ce film débridé, mais frais, gracieux, drôle, avec des filles libres, un ton décalé, un film qui joue avec nous. On s'intéresse à un épisode, et puis hop, elle jump sur une autre histoire, elle détricote, passe des choses graves, parle des choses graves sur un ton léger, avec un reste d'enfance, comme son héroïne, son actrice, Sarah Forestier, seule ou en duo avec Laetitia Doche. Elle est drôle, elle est ardente, elle est écorchée, elle est vivante.
Oui, ce sera un petit peu plus sceptique. Sort de ce corps, nouvelle vague, hein, quand même. C'est très noir et blanc. Voilà, on a l'impression de revenir dans les années 60. Écoutez, moi, très honnêtement, vu la disette qui était la nôtre pendant des mois, voire des années.
Vous n'allez rien dire d'autre.
Non, j'ai besoin d'alcool fort. Et je préfère Suzanne Handler. Voilà.
Des hommes, donc juste un petit mot sur oui, des hommes, parce qu'on en a beaucoup parlé, de Lucas Bellevaux.
Allez le voir, bien sûr, parce que c'est un très très beau travail sur la mémoire, la résilience et la nécessité de se confronter au passé.
Et pour terminer, donc un cadeau pour Charles Tesson.
Mais oui, un cadeau, c'est trois Polanski, sinon rien, Charles Tesson, et trois premiers Polanski, sinon rien, c'est-à-dire évidemment cul-de-sac, Répulsion, Le couteau dans l'eau, chacune des sœurs d'Orléac de Neuve, très très bien traitées ou maltraitées, comme on voudra, par Polanski, parce que Dieu sait si elles vivent des choses pas forcément faciles dans ces trois films-là, pour deux d'entre eux en tous les cas. C'est chez Carlotta, ce sont des Blu-ray DVD, évidemment, avec en plus des courts-métrages rares de Polanski, il faut les découvrir, des documentaires, bref, des bonus à la hauteur de ces trois films qu'on ne saurait trop vous conseiller, à vous, chers auditeurs, de découvrir ou de redécouvrir, parce que ça fait partie, Charles Tesson ne me démentira pas, d'une belle cinéphilie, évidemment.
Absolument. Puis je suis toujours heureux d'avoir le DVD, parce que c'est des compagnons de vie comme les livres, bon. Donc j'adore.
Merci beaucoup Charles Tesson, et bon anniversaire à la semaine.
Bon anniversaire.
Et bonne dernière édition pour vous. On vous laisse le générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Charles Tesson, j'y étais.